Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les jokers de la critique Sophie Avon de Sud-Ouest, mais également quelques mecs comme Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et de Une Heure en Série, la formidable émission que tous les samedis soirs il produit, il anime, moyennement ça. Bon, c'est pas toujours réussi, mais en tout cas, l'émission en est formidable et je trouve que c'est la transition idéale entre le samedi et le dimanche sur Inter. Parce que les séries, c'est de l'art, c'est aussi... Alors comment on dit, on ne dit pas 7e art, c'est quoi? C'est comment tu... Est-ce que c'est un 9e art?
Parce que le... Ça pourrait, s'il ça fallait presque, absolument numéroter. Mais oui, c'est une écriture très particulière, même s'il y a un ADN commun avec le cinéma, bien évidemment. Mais un ADN aussi commun avec la littérature. L'art du feuilleton vient de là, quand même. On n'écrit pas de la même manière un film et une série. On ne la regarde pas de la même manière. On ne l'analyse pas de la même manière. Et c'est absolument passionnant. Et je suis entouré de chroniqueuses et de chroniqueurs absolument brillantissimes. Ce qui fait que tu as raison, ça pallie quand même la défection de l'animateur qui n'est parfois pas à la hauteur.
En tout cas.
Mais il sait, tu connais le problème, en mais tout il cas. Sait céder la parole aux bonnes personnes.
En tout cas, les deux font la paire. Une heure en série et le masque.
Excellente série des années 80.
Et la plume.
Ouais, ça te dit rien
du tout. Éric Neuhoff du Figaro, Pierre Murat, Pierrot de Télérama.fr. On parle ce soir de Alice et le maire, Atlantique, Jimmy Neiman à la demande de Xavier, Chambre 212, Joker, Sœur d'armes aussi à la demande de Xavier et Papy Chat. Dans le courrier de la semaine, ben, les avis sont très partagés sur Woody Allen. Et oui, pour Pascal Hénard de Bourg-les-Valences, Un jour de pluie à New York est l'une des meilleures comédies de Woody Allen depuis plus d'une décennie et l'un de ses meilleurs films. Pour Guy Angela de Mélan en Isère, eh bien, la meilleure façon est de s'adresser directement à Woody. Cher Woody, votre film, c'est du champagne, un feu d'artifice de bonheur, mise en scène lumineuse, idée géniale, dialogue jouissif. Quant à la bande-son, quelle merveille. Arnaud Sanquer trouve qu'avec ce marivaudage new-yorkais endiablé au dialogue pétillant, Woody Allen trouve une seconde jeunesse et cette douce mélancolie qui lui va si bien. Julien Demangea ne l'avait pas connu aussi enjoué depuis des lustres, une classe folle. Et puis, au contraire, Amaury Mesclon de Montmartre, il me dit Montmartre, même s'il disait Tours, c'est donc à Paris, dénonce des dialogues vulgaires et creux, une Elle Fanning horripilante rappelant Miss Piggy du Muppet Show. Cathy Marnier de Nogent trouve curieux le déluge d'éloges du masque pour ce petit film sans intérêt, sans histoire et des dialogues qui ne font rire personne. Jean-Jacques Coriot d'Aix-en-Provence se plaint d'une énième répétition de ses films précédents. Jérôme Duvivier de Lyon, tel un photocopieur qui dégrade la qualité d'une image à chaque passage. Woody Allen fait le même film depuis des années dont la splendeur s'étiole inexorablement. Monsieur Pagella de Genève tient Un jour de pluie à New York pour un marivaudage moyen et sans rythme ni tonus, une critique sociale bâclée, sans parler du jeu grotesque de Mademoiselle Elle Fanning. Patrice Piche de Toulouse réduisent Un jour de pluie à un roman photo de luxe, ou encore Régis Nicole de Saint-Jean-de-Bray en Loiret. Vous connaissez les histoires drôles sur les blondes comme celle-ci. Une blonde entre dans une pharmacie et demande « Avez-vous des lunettes ?» pour le soleil, non, pour moi. Eh bien, en regardant un jour de pluie, ça me fait rire, oui. Un jour, en regardant un jour de pluie à New York, arrête, c'est pas parce que t'es blonde, Sophie, que j'ai pas le droit
j'suis
de sourire.
Blonde, non, je suis pas blonde, je suis rousse.
Nous dit Régis Nicole, j'ai eu l'impression que Woody Allen avait listé ses blagues préférées sur les blondes stupides et avait cherché à en faire un film. À ces stéréotypes sur les blondes s'ajoutent les clichés sur New York. Voilà pour Woody. Qu'est-ce qu'il y a, Pierrot ?
Non, mais quand on dit qu'il filme toujours le même film, c'est faux. C'est absolument faux. C'est des variations. On appelle ça des variations. C'est comme si on disait que Balzac, dans la Comédie humaine, écrivait toujours le même livre. C'est
enfin, aussi, il a fait très peu de films, Balzac. Hein. Très, très peu. Enfin,
très peu, mais il a fait autre chose qui est
alors,
pas mal.
Ouais. Et avis, cher Eric, enthousiaste, à quelques exceptions, pour Portrait de la jeune fille en feu. De ta copine Céline Sciamma, Michel Belin de Boulogne-Billancourt parle du chef-d'œuvre incandescent de Céline Sciamma. Le 7e art n'en déplaise aux machos aveugles et teigneux.
Qu'est-ce que c'est
beau. Catherine Sciamma est une artiste accomplie, une féministe de haut vol, une immense cinéaste. Philippe Nicolas remercie Sophie Avon de son intervention à propos du Portrait de la jeune fille en feu, un film lumineux d'une grande finesse. Délicatesse et d'une grande beauté. Cato Trey juge ce film magnifique et les deux actrices exceptionnelles. Vous m'énervez grave. Hugues Dimitri évoque un film d'une grande beauté politique et très intelligent. Peut-être trop intelligent pour Eric Neuf. Pour Arnaud Sanquer, Portrait de la jeune fille en feu est simplement un grand film sur le regard. Delphine Oriol de Paris 19e nous dit Eric Neuf ayant détesté Portrait de la jeune fille en feu, je me suis dit chic, ça doit être une œuvre sensible et délicate. Il faut absolument que je...
Mais j'ai été payé par Sciamma pour dire ça.
Et effectivement, j'ai très vite été emporté. Alors, il y a quelques bémols, comme Cléo Alice de Paris, qui juge que c'est un film qui n'a pas de chair, pas de sang, tellement typique de ces cinéastes contemporains, souvent français, dont tout le travail vient de la tête et jamais des tripes. Quelle tristesse. Ou encore Adrien Zoltan qui nous écrit « Mes chers vengeurs masqués, le problème évident de Céline Sciamma, c'est qu'elle s'est mise à croire tout ce que disent d'elle les journaux comme Libé, Télérama ou les Arocs. Et depuis, bah, elle pense qu'elle pense. Exactement comme Rebecca Zlotowski. Voilà, pour le courrier, je précise à la fin de ce courrier que Madame Sciamma a souhaité, sur France Inter, un matin, a souhaité qu'Éric Neuhoff disparaisse de la grille de France Inter et donc du Masque et la Plume.
Et moi non ?
Non. Mais là, je parle sérieusement parce que ça ne m'a pas fait sourire. Et on peut dire tout ce qu'on veut de ce que pense, de ce que dit, de ce qu'écrit Éric Neuhoff. Mais demander le matin la tête d'Éric, j'ai trouvé ça particulièrement peu loyal.
Du moment qu'elle ne m'oblige pas à revoir son film. Mais
qu'elle
y aille.
En boucle.
Qu'elle fasse des listes, qu'elle dise qui a le droit de parler à la radio ou pas. Moi, je l'appelle Céline Sciamma-Carty maintenant.
Joker, le film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz. Qui a reçu le Lion d'or à Venise. Je dis bien le Lion d'or à Venise. Et depuis, une presse dithyrambique, ça se passe dans les années 80 à Gotham City, où Arthur Fleck, un comédien raté de stand-up qui est déguisé en clown, est joué par Phoenix et violemment agressé par des voyous. Une agression doublée d'une humiliation qui va le rendre fou et transformer le Joker, l'ennemi juré de Batman. En tueur psychotique à la tête d'une armée de clowns révolutionnaires, film accusé d'ailleurs très vite par la presse anglo-saxonne de faire l'apologie de la violence. Il paraît que même, je ne sais pas si c'est vrai, le FBI se serait saisi de l'affaire, jugeant que ça allait trop loin. En tout cas, ça dure 2h02. Qu'en pensez-vous, Xavier ?
C'est extraordinaire la publicité qu'il y a autour de ce film, pour espérer qu'il marche, et ça d'ailleurs était payant hein, aux États-Unis.
Mais je crois que ça marche
marrer, oui. Alors, on lit,
le bon démarrage est très très bon
oui,
en France.
Le démarrage est très bon en France, mais il a été particulièrement aux États-Unis. On lit un peu partout. On a interrompu les projections en salle parce que les gens s'évanouissaient devant la violence qui était à l'écran. C'est surtout la connerie qui terrasse, hein, quand même, la première chose. Non, mais bien avant la violence qui est petite, quand même, c'est l'effroyable bêtise de ce scénario. Alors, sorti de nulle part, c'est-à-dire ça devient tellement compliqué de réinventer Batman. Normalement, le Joker, il tombe dans une espèce de cave, de cuve, de produits chimiques qui vont le déformer, qui vont accentuer son rictus.
Le fameux
Joker.
Voilà.
Là, donc, on a un clown raté qui commet bêtise sur bêtise pendant les spectacles qu'il essaie de faire dans la rue, dans les hôpitaux auprès des enfants, qui est atteint d'une pathologie qui lui fait donc déclencher des crises de fou rire machiavélique, inquiétante, un peu à n'importe quel moment. Donc évidemment, Joaquin Phoenix, à qui l'Oscar a échappé après le film de Lynn Ramsey, Beautiful Day, je vous rappelle, où il joue un soldat traumatisé à son retour d'Afghanistan, parce qu'en ayant donné une barre de bounty à une petite fille qui s'était fait tuer dans la seconde immédiate, il s'en était jamais remis. Il n'a pas eu l'Oscar pour Jésus. Donc là, il se dit, bon, allez, pour le Joker, maintenant c'est bon, quoi, je vais y aller. Alors il en fait, mais des caisses, mais un point.
Mais il le fait bien. Il fait des
mais il fait tout le temps la même chose. Comme ça, pendant 5 minutes.
C'est pas tout à fait ça.
Ah, mais j'ai pas la tessiture. Mais j'ai pas non plus l'Oscar. On se dit, mon Dieu.
Bah lui non plus.
C'est une catastrophe de caricature. Au moment où on se dit, on peut pas faire pire. Ah, bah Robert De Niro débarque. Alors donc, on peut faire pire, oui, effectivement. Parce que alors, lui aussi, dans la caricature, il ramasse grave quand même. Il n'y a pas de scénario. C'est le nihilisme pour les imbéciles. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a un grand chaos qui gagne les rues de Gotham au moment où, évidemment, les parents de Bruce Wayne sont en train de se faire assassiner, donnant naissance à Batman. Donc, à un moment, on croit que le Joker est mort et puis il ressuscite pour devenir le grand méchant.
Ça, là, tu en dis beaucoup, là.
Oui.
J'en dis beaucoup, on s'en fout comme de l'entrante. On sait que c'est le méchant préféré de Batman, de toute façon. Ça, non, mais on en non, fait une espèce de triste du nihilisme à deux balles.
Plus tu démolis.
C'est Sophie. Surtout très bête.
Je suis entièrement d'accord avec Xavier. Je trouve le film détestable. Je le trouve à la fois, à la fois trop plein
juste
et
une question, vide. Est-ce que vous avez lu vos confrères
Oui, moi j'ai lu Libé notamment, qui effectivement est assez dithyrambique. Et
les journaux sont dithyrambiques.
Et surtout le Lion d'Or, oui, c'est ça surtout. Non, parce que c'est un... Enfin, je trouve que c'est assez bête, en effet, Xavier l'a dit, mais surtout, je trouve que cette mode d'aller chercher un personnage secondaire dans une franchise qui est déjà bien installée, donc déjà, on voit la rentabilité, hein, c'est la grande mode à Hollywood de faire ça, de lui adjoindre un passé, une genèse, etc. Mais finalement, pour en faire quoi? Pour en faire un psychopathe de plus? Mais le cinéma est quand même chargé de grands psychopathes, comme ça, qu'est-ce qu'il apporte de plus dans sa galerie de personnages? En plus, j'ai le sentiment de Todd Phillips, qui, au fond, n'a pas grand-chose à dire et qui ouvre des tirs comme ça et il saupoudre un peu de tout, il fait un personnage très composite comme ça dont il essaie de racheter un peu l'humanité, puis en même temps il montre que c'est un grand monstre, en même temps il en fait un personnage christique, et puis en même temps oui c'est quand même un salopard, enfin un type qui est débordé par sa violence, etc. Et sur l'époque, parce que c'est un film clairement sur l'époque, même s'il est situé dans les années 80, c'est clairement un film sur l'Amérique d'aujourd'hui, mais là aussi c'est de la poudre aux yeux. On a le sentiment qu'il est allé chercher des choses hautement inflammables, qu'il les a mises ensemble, là aussi qu'il a ouvert des tiroirs, qu'il a essayé de tapisser son film par une espèce de légitimité politique, sociale politique, puisqu'il y a la montée des populismes, la colère de la foule, la soif de rage, etc. Et c'est de la poudre aux yeux.
Allez, Pierre.
Ben, c'est très mauvais pour trois raisons. D'abord, c'est que le metteur en scène, Todd Phillips, n'a pas beaucoup de talent, donc il a beaucoup de mal à créer une véritable ambiance, et tout est apprêté, fatigué, je dirais. Il y a aucune ambiance dans Gotham City, il n'y a rien. Voilà. Donc c'est un très mauvais metteur en scène.
Première raison.
Deuxième raison, c'est l'acteur, parce que tout le monde se dit, il a maigri 30 kilos, ça recommence l'affaire de Niro au moment de Raging Bull. Bon, bah, oui, c'est pas très bien de maigrir 30 kilos, mais c'est pas pour ça qu'on a du talent. Bon, pas forcément, en tout cas. Si on cherche un cabot pour jouer Joker, Jack Nicholson était quand même, à ce moment-là, bien mieux. Et dans la genre finesse, Heath Ledger aussi. Et troisième raison, c'est que c'est assez glauque ce qu'il nous raconte sur la foule. C'est-à-dire la foule qui est censée... par exemple, il y a le personnage sympathique du film, c'est la voisine de Joker. À un moment donné, il y a trois meurtres, trois youpies qui sont assignés dans le métro. Et elle est là et elle dit « Ah, c'est bien fait. Il faudrait 1 million de plus comme ça. » Donc, je veux dire que c'est glauque la façon dont il arrive à manipuler l'opinion publique pour faire un film pratiquement de facho.
Eric.
Bah c'est n'importe quoi, hein. Puis ça devrait pas s'appeler Joker mais Oscar, parce qu'on voit que l'acteur louche tellement vers la statuette qu'il ne l'aura pas, j'espère. Non,
ah,
c'est
il
un
l'aura,
film
il l'aura.
Très à la fois vide et répétitif. Ça n'avance pas, ça patine tout le temps. Je vois vraiment pas ce que ça veut dire. C'est même pas un film facho, ce serait peut-être plus intéressant. C'est du n'importe quoi, il remplit de...
Mais c'est du remplissage, c'est tout à fait ça. Il assemble des choses ensemble et il essaie d'en tirer des...
Et par maladresse, ça devient douteux. je trouve.
Ouais, oui, même, c'est douteux. Oui, ouais, même pas, ça devient surtout casse-pied. Oui,
c'est aussi casse-pied.
Non, puis ce côté...
Il y a une course à la désespérance contemporaine aussi.
Oui, mais il est désespéré dès le début, il est fou dès le début, il n'y a aucune progression, il tue des gens, ça ne change absolument rien.
Tout ça parce, qu'il était, parce que maman a été...
Ben voilà, parce que maman était un peu spéciale, alors moi je
Il y a quand même... toujours la faute de maman.
Je conseille aux mamans de ne pas se faire laver les cheveux par leur fils dans la baignoire, parce que quand ils sortent dans la rue, après, ça leur fait des trucs bizarres.
Enfin, de l'intérêt
surtout,
quand même...
interdisez les cartes navigants, parce qu'il va tuer des gens dans la rame.
De l'intérêt quand même d'écouter le masque et la plume, parce qu'on y entend parfois un son très
différent. Ce qui est très bien, c'est la bande-son. Il y a les chansons de Sinatra, il y a Gary Glitter.
On va pas aller voir Joker pour la bande-son.
Mais on peut le voir les yeux fermés, c'est peut-être mieux.
Oui, on va. Ah non, parce que tu payes ta place quand même. Est-ce qu'il y a des réactions sur Joker dans le théâtre de l'Alliance française? Oui, le micro vient vers vous. Bonsoir.
Bonsoir, je suis d'accord avec vous tous. En fait, je ne m'attendais pas à être d'accord avec tout le monde. en fait, je trouve que pour un film sur la vacuité de nos existences, excusez-moi, je suis un petit peu ému. Pour un film sur la vacuité de nos existences, en fait, ça sonne finalement assez creux, enfin très creux même. On a l'impression que Todd Phillips, pour lui, un fou, c'est quelqu'un en fait qui danse un peu de façon bizarre dans la pénombre. Je sais plus exactement ce que je voulais dire du coup.
Enfin, en tout cas, ce qui me rassure, c'est que vous êtes plutôt du côté des critiques. Voilà. Bonsoir, madame.
Bonsoir. Ben moi, excusez-moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Ah. Il en fallait. Non, mais je suis d'accord qu'au niveau du scénario, c'est pas, je trouve pas ça exceptionnel. Par contre, je suis désolée, mais je trouve que la performance de Joaquin Phoenix, moi, je la trouve exceptionnelle. Je suis sortie de ce film, j'avais des frissons, mais partout. J'ai entendu un rire à côté de moi. Il y a un frisson qui m'a parcouru le dos. Je trouve qu'il a une gestuelle du corps qui est incroyable, sa manière de danser, son rire. Il m'a donné des frissons et je trouve son jeu beaucoup plus fin que vous ne le dites. Voilà.
Merci de votre sincérité. On arrête là pour Joker. On va garder pour plus tard, hein, t'es d'accord, Xavier, le Gemini Man, hein?
Ah, je suis d'accord, hein? Oui,
allez, Alice et le maire. Un film de Nicolas Parisière qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs avec Fabrice Luchini dans le rôle de Paul Terrano, le maire socialiste de Lyon. Non, ceux qui n'ont pas vu, c'est pas Gérard Collomb. Il est beaucoup, beaucoup plus vif, Luchini. Et avec Anaïs de Moustier dans celui de sa jeune conseillère, le film raconte comment un édile totalement lessivé, sans idée, qui vient de publier un livre qu'il n'a pas écrit, ça c'est banal, et qui voudrait prendre la tête du PS.
C'est une drôle d'idée.
Et se présenter à la présidentielle en appel donc à la jeune Alice Eman, c'est Anaïs de Moustier, une normalienne qui fait lire aux vieux les rêveries du promeneur solitaire, qui lui parle d'Orwell, de Marc Bloch, et qui lui devient d'autant plus indispensable qu'elle ignore les codes de la politique politicienne, film très romérien, dans le sens aussi où la parole compte plus que l'intrigue, et où moi j'ai eu parfois l'impression de retrouver le Luchini de L'Arbre, le maire et la médiathèque, même s'il n'était pas le maire de ce Romère Lapierre.
Oui, c'est ça, c'est, on dirait le film de Romère, L'Arbre, le maire et la médiathèque, on dirait qu'il joue un instituteur, un prof, un directeur d'école, et qui refusait de faire de la politique. Et on dirait qu'en effet, en 30 ans, il a changé d'avis, fait de la politique, devenu maire, puis maintenant il est un peu désillusionné, donc il y a des rapports évidents. Et puis le dialogue, moi ce qui me frappe surtout, c'est la qualité du dialogue. C'était déjà le cas du précédent film de Nicolas Parisère, que je préférais un peu, je m'attendais 3 ou 4 ans après à quelque chose d'un tout
c'était
petit
le,
peu...
Le Grand Jeu.
Le Grand Jeu, pardon. Et c'était, enfin, il me semble que j'attendais un peu un film un peu plus au vitriol que ça, mais c'est tout à fait son droit de rester dans la légèreté et la mélancolie. Et je trouve que c'est très bien. Par exemple, il y a une réplique que Luchini dit très bien. À un moment donné, on lui demande, monsieur le ministre, on nous attend. Et il dit, non, on ne nous attend pas, on m'attend, moi. Et je trouve que c'est absolument formidable la façon dont
c'est dit. Et lequel Luchini en fait peu, si j'ose dire.
Peu pour Luchini, c'est vrai. Voilà, il est très bien. Et c'est un film sur l'air du temps, me semble-t-il. C'est-à-dire que c'est pour les futurs municipales. On nous montre à quel point c'est compliqué, c'est fatigant, et quand on n'a plus d'idées, à quoi ça sert de faire encore de la politique. Donc c'est un film peut-être un petit peu surfait, mais quand
Eric,
on a le programme à côté, on est très content de voir ça.
Ben, ça fait plaisir déjà de voir un film sur la politique. Il n'y en a pas tant que ça. Et avec Luchini, qui nous... Ah, beaucoup moins qu'à une époque. Hein.
Mais c'est pas l'exercice de l'État.
C'est pas l'exercice de l'État, mais c'est quand même un truc très réussi, intelligent. Et Luchini montre qu'il peut tout faire. Il peut jouer un histrion ou un type comme ça, un peu revenu de tout, qui a divorcé, qui se demande s'il va pas se présenter à l'Élysée. On ne sait pas exactement quand ça se passe, mais comme il veut prendre la tête du PS pour devenir président, ça doit être dans les années 80, ça, pas aujourd'hui.
Non, parce que tout par... Enfin, oui, au contraire. Tout se veut plutôt... Oui,
non, mais puis il y a aussi quelque chose de très rare, c'est qu'on voit une ville. On voit comment est Lyon, ce qui s'y passe, le théâtre, les rues, quels sont les gens qui y habitent. De Moustier a un ex qui vit avec une fille complètement folle. Là, c'est Maude Villers qui est toujours très bien. On voit bien les rapports qui existent dans ces municipalités, les rivalités, les mesquineries, les pots de banane incessantes et tous les codes qu'il y a. Et cette... petite prof de philo qui déboule là-dedans avec ses idées toutes faites, va apprendre...
C'est une littéraire, en fait. C'est une littéraire.
Mais c'est déjà bien de voir un film où on offre des livres, des classiques, où on parle de Marc Bloch, de Bartleby...
Sans attendre une intrigue
De
suspense.
On voit aussi ce que c'est que... C'est pas un hasard si elle lui offre Bartleby, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui préfère ne pas Luchini. Et Luchini est très très bon, et Pariser est un cinéaste à surveiller.
Sophie.
Oui, c'est un film qui est, comme vous l'avez dit, intelligent, qui a de la tenue, qui est bien dialogué, qui est brillant, qui est élégant, qui est bien joué, en effet, un film sur le verbe et...
Je sens le mais.
Tout ce qu'il y a entre le... La Alice pensée et l'action, et ben, ce sont les mots, et c'est un film là-dessus, sur ce qui est entre
les deux.
Oui,
c'est sur la rhétorique, hein.
Et sur la rhétorique, bien sûr, et sur la parole politique, et sur la vanité aussi de la parole politique. Mais je trouve qu'il y a un moment où le film piétine et tourne un peu en rond. À un moment donné, Alice dit « Vous devez vendre un récit qui va de A à B ». Et on a le sentiment que ce film-là, il manque d'un récit qui va de A à B, il s'arrête à A'. Et c'est comme si, tout à coup, Nicolas Pariser abdiquait toute forme de romanesque, abdiquait toute forme d'ampleur, et s'en tenait une résolution assez morne, à l'image de la vie politique sans doute. Mais on aimerait qu'un film de cinéma relève le gant, justement, à ce moment-là, et montre qu'il y a le rêve, il y a l'ampleur romanesque, mais quand je dis romanesque, je veux dire cette fiction, cette possibilité de rêver, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est justement, Eric en a parlé, il y a ce personnage de l'artiste dans le film qui est folle. C'est-à-dire qu'elle est artiste, elle voit le monde, elle poétise le monde, elle est alarmiste sur le monde, mais il la traite avec ironie et elle est folle. Et ça m'a paru très symptomatique, ça, de ce que racontait ce film-là et de la position de Pariser aussi.
Xavier.
Je pense que les limites du film, elles sont dans ces intrigues secondaires où les personnages ne sont pas assez développés comme ce personnage d'artiste un peu folle, ou ce jeune libraire, imprimeur, éditeur auquel Anaïs Desmoutiers va essayer de porter aide. S'il était resté sur, effectivement, les coulisses de la politique, le doute, parce que la place du doute dans le monde politique, on ne la filme jamais, les hommes et les femmes politiques, quand ils prennent la parole, ils sont perclus de certitude, le dialogue, le verbe, il est affirmé. Là, on a le doute, un doute...
C'est plus l'usure que le doute, je trouve.
Ah, il y a le doute, quand même, parce qu'il fait venir quelqu'un qui va avoir des idées, quand même, nouvelles, donc il a besoin. Et je trouve qu'à la fin, il y a du romanesque quand ils écrivent à deux, à quatre mains, plus exactement, le discours...
Oui, mais tout à coup, après, ça retombe,
ça manque de... entre eux, c'est ça qui est rare.
Et ce que je trouve très bien, en revanche, c'est quand même...
T'es allé pour ça, toi.
On a parlé du verbe, mais il y a quand même de la mise en scène.
C'est pas Strauss-Kahn.
Oui, de la mairie de Lyon, ces couloirs interminables, ces antichambres, ces bureaux immenses, alors qu'elle est dans un minuscule bureau, on ne voit jamais le jour. Il sait très bien raconter uniquement à travers les décors et les espaces, un tout petit peu, justement, la hiérarchie et les rapports de force qu'il y a à l'intérieur d'une mairie et d'un petit microcosme politique. Donc c'est quand même un film haut de gamme par rapport
à ce qu'on va avoir.
Et d'autres de ce soir, oui. Alice Elmer, c'est Nicolas Pariser, direction sur ce film. Oui, tout en haut oui, de bonsoir, ce théâtre. Bonsoir.
Bonsoir. Je pense que le metteur en scène a pensé effectivement à d'autres films, Nelly et Monsieur Arnaud probablement, et sans doute à d'autres films. L'atmosphère de Lyon est assez bien rendue, mais pas véritablement. Je pense que Bertrand Tavernier aurait fait mieux. Je pense qu'il aurait dû concentrer davantage son sujet sur le rôle du maire de Lyon. Il ne s'agit pas de porter l'uniforme de l'Olympique Lyonnais, le survêtement pour montrer qu'on est maire de Lyon. Il faut vraiment s'impliquer et laisser de côté cet investissement pour la présidence de la République. Et là, il a pensé à Bertrand Delanoë en 2008, précisément.
Merci pour cette intervention, Alice Elmer, donc Nicolas Pariser. À Cannes, il a reçu le Grand Prix, c'est Atlantique, le premier long métrage de la franco-sénégalaise Mati Diop avec Mama Sané qui joue l'héroïne de 17 ans, Ada, Ibrahima Traoré, son amoureux, Amadou Mbo, beaucoup d'autres. Le film s'ouvre dans la banlieue de Dakar. Des ouvriers travaillent à la construction d'une tour appelée Atlantique et se révoltent parce que leurs salaires ne sont pas versés. Ils embarquent sur une pirogue destination Gibraltar, tandis que les filles les attendent dans un bar dancing de la plage, car d'autres choisissent de rester dans un pays où peu à peu apparaissent des fantômes, les esprits des migrants qui sont morts en mer, des zombies aux yeux très très fluorescents. Car ce film aussi, vous l'avez compris assez vite, entre le réalisme social, le fantastique et le thriller politique, on a envie de dire un peu parfois qui est trop étreint. Xavier,
c'est un film pétri de bonnes intentions, mais qui reste constamment
moins que d'autres dont on va parler.
Oh oui. Ah, quand même, il y a de l'ambition et il y a des envies de raconter tout à fait légitimes d'ailleurs. Hein. Toutes les fractures, toutes les césures qu'il y a sur le continent africain, ce désir d'Europe, cette violence effectivement qui est cette immigration par la mer et dont l'issue est évidemment pratiquement quasi certaine tragique. Les fractures sociales, puisque la jeune héroïne va épouser un type très riche. Il y a les frontières entre le réalisme et le fantastique, la culture africaine. Mais à aucun moment, le film n'arrive à se cristalliser autour de toutes ses ambitions.
Parce qu'il ne sait pas toujours choisir, me semble-t-il.
Alors, bizarrement, il ne sait pas choisir. Et en plus, alors le film est rempli, et de façon très répétitive, de gros plans sur le ressac de la mer. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a au moins 200.
Bah, c'est propre du ressac.
La lune, oui. La lune, 150 quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on a même l'impression qu'elle remplit l'espace, parce qu'elle ne sait plus très très bien quoi filmer. Elle avait fait un
Le problème, c'est que c'est le plus intéressant.
Je n'irai pas jusque-là. Mais c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire qu'il y a un moment, effectivement, et ben les ambitions, elles sont lisibles. La théorie, effectivement, elle est tout à fait défendable. Mais en termes de cinéma, de mise en scène et d'incarnation de l'ensemble, et ben je trouve que le film, malheureusement, ne prend pas la mer.
Sophie ?
Oui, c'est un film un peu théorique, malheureusement. Et en effet, ténu. Moi, Akal, j'avais trouvé très faible. Et je l'ai revu, j'ai été plus sensible.
Le Grand Prix est un peu surprenant, quand
oui,
même.
Oui, mais en même temps, festival, en le revoyant, j'ai trouvé qu'il y avait une élégie certaine et une féerie. Alors, elle a du mal à faire passer cette féerie. Enfin, ce que j'appelle la féerie, c'est le fantastique. Parce qu'en effet, c'est un peu chantourné, quand même, toute cette histoire-là, de l'un qui s'incarne en machin et bon. Mais, c'est une contemplative aussi. Alors, elle filme son pays, en tout cas, ce pays-là. Elle a un vrai regard de cinéaste. Je trouve un peu sévère sur la mer, parce que je trouve qu'elle a une façon de revenir sans arrêt comme ça à la mer, dont elle filme les vagues et cette espèce de mer vivante, comme quelque chose qui serait vivant et qui gonflerait comme ça, qui reposerait sur quelque chose, enfin, comme si elle était habitée, la mer, ce qu'elle est. Puisqu'elle est habitée des défunts, puisqu'elle est habitée de plein de choses. Et je trouve que ça, c'est quand même assez beau. Il y a vraiment de très beaux plans.
Sur le même plan.
Mais je reconnais que, encore une fois, c'est un peu faible pour faire passer l'émotion, tout simplement.
Eric.
Bah, cet Atlantique manque de nouvelles vagues, hein, parce qu'on a déjà vu ça beaucoup. Hein. Non, c'est un film qui se faudrait. Il y a toujours une petite lumière qui clignote. Attention, poésie, les zombies reviennent.
Voilà, oui,
attention, dénonciation sociale,
attention,
les riches.
Attention, symbole,
mariage forcé, tout ça.
Attention, Grand Prix.
Ah oui, ben ça, c'est eux qui auraient dû faire attention. Pour un premier film, il y a un côté terriblement scolaire et appliqué. Alors que normalement, dans un premier film, c'est foutraque.
Ah oui, un premier long. Ouais.
Et oui, c'est très curieux, ça. J'ai pas compris l'indulgence du jury et ce film qui se voudrait peut-être hypnotique, il est surtout soporifique au bout d'un moment.
Pierre ?
Non, mais vous avez tout dit, je suis absolument d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est tellement appliqué que ça en devient maladroit, et de la maladresse naît presque une sorte de prétention. Voilà, et puis l'idée de mettre du fantastique, c'est très difficile de mettre du fantastique dans un film. Il y a quelques semaines, Xavier et toi, Jérôme, vous aviez signalé un film qui s'appelait Vif Argent.
Magnifique.
Qui était le contraire d'une modestie.
Voilà, et qui est magnifique.
Une sensibilité.
Voilà,
grande,
et le fantastique. Et bientôt, on verra un film qui s'appelle L'Angle Mort aussi de Pierre Trévidic, où il y a le fantastique qui arrive. Et là, c'est tellement à gros sabots qu'on se dit, mais voilà, pourquoi? Non, c'est pour l'instant, c'est raté. Enfin, voilà,
Atlantique, Mati Diop, là encore, dont la presse a fait grand cas la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Non. Chambre 212, le nouveau film du très prolifique Christophe Honoré. Imaginez quand même qu'il a mis en scène l'été dernier Tosca à Aix-en-Provence, au festival d'Aix-en-Provence, qui s'apprête à monter au printemps prochain à la Comédie-Française, Le Côté de Guermande de Proust. Il n'arrête pas dans tous les genres. Et c'est avec Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Camille Cotin. Tiens, c'est le seul film de la soirée avec Camille Cotin. Il y a quelque chose de...
Pas le seul film du mois, qu'on se rassure.
Vincent Lacoste et la chambre 212. 212 comme l'article du Code civil instituant la fidélité des époux. C'est là que se réfugie Maria Chiara Mastroianni après avoir quitté le domicile conjugal. Elle était en couple depuis 20 ans avec Richard, c'est-à-dire Benjamin Biolay, à qui elle n'a pas caché ses nombreuses liaisons avec de jeunes amants. Depuis, eh bien, elle s'est installée donc dans l'hôtel d'en face, chambre 212 de l'hôtel d'en face, c'est à Montparnasse. Et là, Maria, dont le Jiminy Cricket a la voix de Charles Aznavour, ça j'adore, observant plonger le désarroi de son mari, et puis elle fait ressurgir du passé tous ceux qu'elle a aimés, y compris Richard, mais à 25 ans. Alors là, on passe de Biolay à Vincent Lacoste. Bref, un film qui emprunte à la fois au vaudeville et au réalisme magique, qui dure 1h27, quasiment un court-métrage aujourd'hui, et moi, que j'ai trouvé particulièrement réjouissant. Eric.
Ah bah c'est épatant. Hein. C'est... Moi, je n'aime pas beaucoup Honoré d'habitude, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Tiens, tu aimes un film français ?
Oui, oui, un film d'Honoré. Oui.
Et d'Honoré ?
Ah, il faut que je me soigne.
Hein. Avec Benjamin Biolay ?
J'ai rien contre lui, non, mais surtout avec Chiara Mastroianni, parce que c'est non seulement l'histoire d'un couple, mais c'est le portrait d'une femme. Et d'une
elle
femme.
Est, de tous les ah plans, elle est formidable.
Formidable, elle peut pleurer, rire, c'est un vrai bonbon. Et c'est l'histoire d'une femme qui se retourne sur les hommes dans la rue, qui a des amants. Et ah c'est un
film. C'est ça qu'il a aimé, ah bah, bien sûr.
Non, mais c'est un film à contre-courant, en plus.
Je voudrais faire une méchante, mais elle se retourne sur des hommes jeunes.
Non, mais je parlais pas de moi.
Non, non,
je peux donner un avis sans raconter ma vie.
Ils ont la moitié de son âge.
Non, mais et ça, c'est quand même une liberté et une invention dans ce film qui est malin, qui est gracieux, aérien, qui peut tout se permettre. Là, je sais pas, il a dû prendre une potion magique et c'est bourré de références, mais tout passe. La chambre 212 en face, c'est comme Jean-Pierre Léaud dans L'amour à 20 ans qui s'était installé en face de chez Marie-France Pisier. On pense à Bertrand Blier, mais du Bertrand Blier light, sans l'espèce de méchanceté de noirceur qu'il y a chez lui, évidemment à Guitry. Et on voit revenir dans cette chambre d'hôtel, qui n'est pas terrible d'ailleurs, tous ses anciens petits amis, c'est un festival d'ex.
Ah oui,
a...
c'est...
Excellent.
Ça c'est bien,
bravo, tu vois, voilà.
Bravo. T'as insulté personne.
Et ce qui est bien, c'est qu'elle est dans le doute, elle est partie, elle a pas supporté que son amant la trompe, alors que son mari a toujours été fidèle. Elle revoit toute sa vie, il y a Camille Cotin en prof de piano. On pense à Blier aussi parce qu'il y a une apparition.
Oui, on pense à Blier, puis même dans certaines répliques. Hein,
ouais, sont... Oui, tout, complètement. C'est vif et puis assez cruel par moments. Et Carole Bouquet fait une apparition, elle est formidable. Et le film est vraiment un délice, un bonheur. Ça se passe rue de l'Ambre. Et il y a tellement le cinéma qui coule dans les veines de ce film qu'il y a un bar qui s'appelle le Rosebud. Et il s'est pas inventé, il existe vraiment. Mais et évidemment, Rosebud, on pense à Citizen Kane d'Orson Welles. Donc, vive le cinéma et vive cet Honoré-là.
Là, cette rue est traitée comme un décor.
Comme un décor. Et il neige, il y a une pluie de sang sur le lit conjugal. Le film est magique.
Pierre.
Ben, je m'en veux beaucoup. Je sais que vous allez tous délirer. Je m'en veux beaucoup à moi-même parce qu'il y a 2 ans, pour la vraiment une des rares fois, j'avais trouvé le film de Christophe Honoré,
Plaire,
aimer et courir vite, absolument génial. Pour une fois, je m'étais dit, il y a de la profondeur, il y a du sentiment, il y a de tout. Et là, je suis retombé dans l'ornière, j'ai tout oublié, les cours de, et je trouve que c'est artificiel, c'est pas un reproche puisque c'est volontaire, mais du mauvais artificiel, je reste là, je regarde ça, je trouve que c'est pas très bien écrit, que c'est, bon, très bien joué par Chiara Mastroianni, mais c'est tout. Pardon de le dire, mais quand tu dis Bertrand Blier, tu as raison, mais alors 5 minutes de buffet froid, ça me paraît, mais à 10 000 lieues, et surtout Woody Allen, le Woody Allen de Harry dans tous ses états, par exemple, qui mélangeait aussi le temps. Ah, Woody Allen est un magicien pour faire rentrer dans les écrans, sortir, enfin c'est pas neuf, c'est pas nouveau. Et je suis resté à la porte, donc je m'en veux beaucoup, je suis désolé, mais j'ai pas trouvé ça du tout.
Tu as raison de t'en vouloir, hein. Tu as raison de t'en vouloir.
Oui, mais voilà.
Xavier.
Moi, je suis reparti voir le film Chambre 212, justement au 7 Parnassien, puisque c'est le cinéma que l'on voit en dessous de l'appartement qu'habite Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni. Et en sortant par la sortie qui me permettait de tomber sur l'hôtel, eh ben oui, effectivement, c'est exactement l'endroit. Donc ça a prolongé la magie du film que j'adore, moi, qui m'emporte complètement. Tu dis que c'est pas bien écrit. Je trouve que chaque dialogue a une saveur, une couleur, une tonalité. Ça commence quand même par une femme qui est derrière un rideau dans le placard et qui, alors qu'elle est la maîtresse et qu'elle devrait se
planter. Un jeune amant qui est genre mexicain.
Mexicain ou... qu'elle a aimé parce que son nom, son patronyme l'envoyait au 7e ciel. Et la vraie fiancée du jeune homme est là. Elle lui dit des mots doux et elle l'invite un petit peu comme ça de coquinerie et elle écarte les rideaux en disant « Mais c'est pas possible, non, moi je n'en peux plus, mais c'est n'importe quoi. » Mais voilà. Et je trouve que cette manière constamment d'ouvrir le rideau, de rentrer là où on l'attend pas, le théâtre absolument, et d'aller sur cette réconciliation, qu'est-ce qu'on fait de nos ex, qu'est-ce qu'on fait des amours dont on croit qu'on ne se remettra jamais et qui en fait finalement ne compteront pas tant que ça au bilan final. Enfin, je trouve que le film est d'une intelligence, on le redécouvre à chaque fois, il a un charme fou, il a un charisme absolu, moi j'adore ça.
Et Chiara Mastroianni,
elle a eu
un prix à Cannes, oui, dans
un certain regard d'interprétation
féminine.
Oui, Sophie. Oui, mais moi j'adore aussi le film. Je trouve que comme toutes les grandes comédies aussi, parce qu'il est hilarant et comme toutes les grandes comédies, il a aussi un envers un peu mélancolique parce que c'est aussi un film sur le temps qui passe et sur la perte de la, enfin sur la fin de la jeunesse. Mais ça ne contamine jamais.
Voilà, c'est un film très léger.
Oui, mais c'est quand même présent. Et Chiara Mastroianni, elle est formidable parce qu'elle est en effet, comme l'a dit Eric, espiègle, pleine d'appétit sexuel et ça fait du bien de voir une femme qui est de l'appétit sexuel sans être ni nymphomane, ni hystérique, ni salope, etc. Parce qu'on en est encore quand même un des clichés comme ça. Ça fait du bien de voir ce genre de personnage-là. Mais en même temps, derrière son côté plein d'appétit et spleg et tout, elle a une vraie mélancolie. Et d'autant plus que Chiara Mastroianni, elle a un visage mélancolique, elle a quelque chose de mélancolique. Mais le film est en effet hilarant et surtout, il arrive avec une simplicité, une liberté de forme à arriver dans une simple chambre d'hôtel à faire passer autant de choses, c'est assez formidable, quoi. Le film est très drôle.
Chambre 212 de Christophe Honoré, des réactions sur ce film. Oui, le micro vient vers vous. Bonsoir.
Oui, bonsoir. J'ai trouvé aussi que c'était un film vraiment formidable. J'avais passé un excellent moment. Les acteurs incarnent parfaitement vraiment le propos. C'est l'automne du couple, ils savent plus très bien où ils en sont, ils font le bilan. Chiara Mastroianni, elle est formidable. Et puis il y a ce côté très théâtral, ils passent la rue sans cesse, ils vont de l'appartement à l'hôtel, tous les personnages. Et j'ai trouvé que tout était parfaitement à sa place. On passe un moment incroyable et la salle d'ailleurs était totalement d'accord avec ça.
Merci madame pour votre intervention et la voix d'Aznavour pour être la conscience. Ça, c'est quand même une très jolie idée. Pas d'autres réactions. Non, mais c'est pas grave. Mais t'as le droit de bouder, hein. T'as le droit. Il n'y a pas de problème. C'est à toi que ça fait du mal.
Tu te laisses aller, comme disait.
La chambre 212 de Christophe Honoré. Allez, maintenant, on va aller un peu plus vite parce que on a moins de temps, évidemment. Papicha de l'Algérienne Mounia Medour avec Lina Koudri, Chérine Boutella, Amira, Hilda Douaouda, présentée à Cannes, mais là, un certain regard, interdite de projection en Algérie. Ce premier film dénonce l'oppression du corps féminin par le fondamentalisme islamiste. Ça se passe dans les années 90. Nejma, c'est Lina Koudri, 18 ans, étudie le français à l'université d'Alger et elle fait le mur pour sortir en boîte avec ses copines. Elle voudrait travailler dans la mode, créer ses propres collections, mais la pression religieuse va s'amplifier et coudre des robes va alors devenir pour elle une manière de résister. Le thème est évidemment fort, la cause ô combien remarquable. La question que je vous pose, c'est, parce que j'ai eu ce débat-là avec un courrier que je lirai la fois prochaine à propos du film Au nom de la terre d'Edouard Bergeon, où on a dit qu'on trouvait le film esthétiquement pas tout à fait réussi, mais on nous a accusé d'en vouloir à tous les agriculteurs de France. Oui, non, ça. Pas du tout. Non, mais je le dis parce que je le précise, oui, d'emblée, parce qu'on va encore avoir pour celui-là et même pour les Kurdes, à mon avis, le même problème. Donc, c'est un film.
Les paysans peuvent avoir des tracteurs et des détracteurs, faut leur dire.
Tu me fatigues, Eric, tu me fatigues. Je t'aime, mais tu me fatigues.
J'aurais dû rester sur le Festival d'Aix, vraiment.
Non. Bon, voilà, Papicha, allez.
Sophie. Très rapidement, moi je trouve que c'est quand même un assez beau film, même s'il a des défauts, évidemment, c'est un premier long métrage, il est un peu appuyé, il n'est pas toujours à la hauteur du sujet, mais je trouve qu'elle arrive une chose très modeste, très efficace et très fine, c'est arriver à mettre le doigt comme ça sur le combat qui est obsessionnel de ces gens-là contre le désir, contre la beauté, contre tout ce qui fait la féminité, tout ce qui fait l'autre, etc. Elle arrive à montrer ça et tous les enjeux de cette décennie terrible d'Algérie à travers ce simple rêve de cette jeune fille qui veut faire un défilé de mode et dont là finalement vouloir être belle serait une subversion absolument terrible. Elle arrive à travers cette simple ligne narrative, je trouve, à faire croiser beaucoup d'enjeux politiques qui sont et je trouve que pour cette simplicité là et cette modestie là le film est pas inintéressant.
Xavier. Pardon Sophie, mais elle met pas le doigt, elle met le pouce, quoi. C'est tellement appuyé, c'est tellement surligné, c'est tellement accompagné de musique, de ralenti,
oui,
de premier plan. Le film, malheureusement, n'est pas modeste et j'aimerais qu'il le soit parce que, effectivement, le sujet, Jérôme l'a dit, est inattaquable, éminemment respectable, mais ce qu'elle en fait, on est quand même là pour juger des films, tu as le droit bien sûr d'aimer, et pas des notes d'intention, et entre la note d'intention et ce qu'on voit à l'écran, il y a quand même une béance de lourdeur, elle désamorce elle-même ses effets de surprise, on va pas raconter une scène, mais qui est tellement téléphonée que ça doit être un grand moment de tragédie, et on est un peu embarrassé à ce niveau de premier degré, et malheureusement, tout est là, tout le temps, extrêmement lourd, extrêmement appuyé, on a l'impression qu'elle ne fait confiance ni à son sujet, ni aux spectateurs, et c'est quand même dommage pour un premier film.
Eric.
C'est un film adolescent sur l'adolescence, dans un pays où l'adolescence est condamnée, punie et peut-être même interdite, et avec les défauts, la fougue de l'adolescence. Et c'est ça, moi, qui m'a plu dans le film, cette énergie qu'elle a, et cette innocence, parce que c'est vrai que c'est naïf, c'est balourd par moments, mais l'idée de cette fille qui veut absolument organiser un défilé de mode où elle ne coud que des robes blanches alors que l'uniforme qu'on veut leur imposer sont des noirs.
Détourner le voile.
C'est quand même un film où on voit que les pires misogynes, là-bas, ce sont les femmes avec les filles qui veulent sortir en boîte de nuit, s'amuser et être belles. Et Sophie a raison. La subversion, là-bas, c'est la beauté, c'est la liberté. Et le film a ce mérite-là. Et il n'est pas du tout ennuyeux. Il est peut-être maladroit, mais comme le sont les adolescents et comme le sont souvent les premiers films.
Pierre.
C'est pas une raison. Non, mais je veux dire qu'on est entouré de films, en effet, tu l'as dit, Jérôme, qui sont absolument généreux. Alors, chaque fois qu'on n'aime pas un film, on se fait traiter, alors, on n'aime pas les paysans, on n'aime pas les, je sais pas. Non, mais là, c'est vrai qu'on aimerait, mais ça.
Attends,
on
va pas mais c'est quand même beaucoup plus fragile que le film sur les paysans. Tu vois, il y a quelque chose de plus vacillant dans ce film qui est un peu plus tendre, un peu plus joli, un peu plus.
Oui, non, mais c'est vrai. Mais enfin, ça reste au niveau quand même des intentions. Mais c'est vrai que c'est pas le pire. Enfin,
on en a un autre qui arrive.
Mais non, alors, limite, je préfère d'autres, voilà. Je préfère d'autres qui arrivent, moi. Mais enfin.
Ah oui, c'est vrai. Bon.
Mais oui. Mais ouais, absolument. Non, mais je trouve ça un peu. Ouais, on ne peut pas en dire du mal. Voilà, parce que sinon on se fait traiter.
Et donc on le dit
malheureusement parce que c'est pas du très grand cinéma. Voilà, c'est tout.
Papicha de Mounia Medour. Une réaction sur ce film.
Alors moi, j'ai passé un excellent moment devant ce film. Les actrices, je les trouve formidables, pleines de fougue, d'énergie, et c'est un hymne à la vie, à la résistance, voilà.
Merci de votre intervention, d'autres sur ce film, non. Allez, Sœurs d'armes, on y vient de Caroline Fourest, qui n'est pas seulement une essayiste polémiste qui milite pour le féminisme, les droits des homosexuels, la laïcité contre les intégrismes, c'est aussi désormais une réalisatrice. Elle signe un drame de guerre dont les deux héroïnes sont deux jeunes Françaises parties se battre en Syrie aux côtés des Kurdes. Elles sont jouées par Camélia Jordana et Esther Garel et elles font la rencontre de Zara, qui est une rescapée yézidi jouée par Dylan Gwynn. Et les trois vont devenir les sœurs d'armes du titre. Elles font face, vous le savez, aux hommes de Daesh dont la seule terreur est d'être tuée par des femmes, avec également Amira Khazar en chef de bande et Pascal Grégory en agent de la coalition. Un film qui est sorti mercredi dernier, au moment même où la Turquie lançait une opération en Syrie contre une milice kurde considérée comme terroriste par Ankara, mais évidemment soutenue par les Occidentaux, car elle constitue ce fer de lance de la lutte contre l'État islamique. Donc on est, je dirais, pour ce film-là, bordé de partout. On ne sait plus quoi dire, quoi faire. Et je n'évoque pas le film qui était d'ailleurs précurseur, le documentaire de BHL, Peshmerga, qui montrait ces femmes au combat. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre ? Toi, tu aimes ?
Moi, je l'aime bien. Voilà. Non, mais voilà. Alors, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre. Je dis pas du tout que c'est un chef-d'œuvre. Je dis simplement que j'aime bien qu'elles disent et qu'elles rappellent ce qu'elles rappellent et la façon dont elles le rappellent, c'est-à-dire des gens qui sillonnent les villes en enlevant des enfants, en martyrisant les femmes, en interdisant de manger des tomates et des congons. Je trouve ça bien. Je trouve que ce qu'elle a voulu faire, c'est un pamphlet romanesque. Alors, elle fait un pamphlet, c'est-à-dire que c'en est fait avec des personnages très droits et très simples, parce que c'est pas de la grande psychologie, et du romanesque, il y en a. Alors, on peut aimer des documentaires. Elle a voulu faire une fiction. Et je trouve qu'elle s'en sort. Les scènes de bataille, pardon, elles sont pas honteuse. Et la scène où, par exemple, il y a le fameux Mad Max, un char maquillé pour éviter les balles, enfin, en quelque sorte, je trouve ça pas mal. Voilà, c'est tout.
Eric ?
Bah, c'est embarrassant comme tout. Hein. Elles n'ont pas de chance, hein, ces combattantes au cinéma. Hein.
C'est vrai.
Heureusement qu'il n'y a pas de salle là-bas, hein, parce qu'elles vont avoir honte. Hein. Non, mais c'est terrible. Parce que cette Caroline Forest, visiblement, n'est pas faite pour ça du tout. La caméra n'est jamais à l'endroit où il faudrait. Oh. Mais si, il y a une musique dégoulinante.
La musique dégoulinante, elle est partout.
Il y a un feu de camp le soir où toutes ces filles sont en train de fredonner le chant des partisans. Mais c'est grotesque. Bah, on ne peut pas faire ça.
Mais pourquoi ?
Elle adore aussi mettre la caméra dans le ciel et filmer des batailles depuis le...
Mathilde Diop aussi.
Mais non, c'est pas un modèle.
Oui,
hein. Tout sonne faux. C'est peut-être courageux de vouloir tourner un film là-dessus, mais qu'elle fasse autre chose. Là, c'est une scène de baignade aussi qui est complètement ratée. C'est épouvantable, alors que c'est pas sorcier une scène de baignade. Même une pub pour un chewing-gum, ils savent le faire.
Et là, c'est pas une pub, justement.
Et puis alors, elles arrivent dans une ville bombardée, il y a une poupée par terre. Alors attention là. Ah mais non, ne touche pas. C'est piégé. Tu sais bien comment ils sont. Ça sent quoi ici? Le barbecue de djihadistes. Et à un moment, on voit Pascal Grégory, je sais pas trop ce qu'il fait, il attrape un talkie-walkie, dit trois trucs dans le haut-parleur. Et je me suis dit, tiens, il y a Ariel Dombal qui va s'engager dans les combattantes.
Xavier.
Mais c'est terrible pour Caroline Fourette, parce qu'on a déjà assassiné, à juste titre, les filles du soleil d'Eva Husson qui tombaient dans tous les pièges d'un romanesque.
Ce qu'on nous a beaucoup reproché,
mais moi j'assume complètement déjà dégoulinant avec déjà les scènes de danse le soir autour du feu avec un petit peu de pittoresque National Geographic. Elle retombe dans les mêmes pièges venant de quelqu'un qui est à la télévision.
C'est beaucoup mieux fait.
Avance de manière très acérée, très définitive. Bon, qu'elle retourne défendre les femmes, les pédés et tout ce qu'elle veut, ça c'est très très bien. Mais
ils n'ont pas mérité ça.
Mais malheureusement, les femmes kurdes n'ont pas mérité ça. J'ai l'impression d'un autre montage des Filles du Soleil, donc c'est quand même extrêmement embarrassant, comme l'a très bien dit Eric. Et il y a un moment, l'enjeu dramaturgique romanesque, c'est on a deux Françaises, on sait qu'il y en a une qui va y passer, et on passe notre temps à dire, bon alors... Ouais, non, c'est la petite... Ouais, c'est celle-là. Ah non. Là, avec la réplique qu'elle vient de dire, ça va être celle-là. Voilà. Et donc, du coup, on se dit, non, il y a un problème.
C'est ouf.
Oui, il n'y a rien à défendre pour moi. C'est très, très, très mauvais. On est évidemment de tout cœur avec ces guerrières-là et Coraline Forest et tout ce qu'elle dit, mais malheureusement, c'est mièvre. Elle filme ses guerrières comme une colonie de vacances. En effet, les Kurdes dansent devant le feu et il y a un petit peu de. C'est pas possible, quoi. C'est vraiment à côté, les filles du. Non, franchement, les filles du soleil, à côté, c'est Coppola. Hein.
Les filles du soleil, c'est raté.
Et alors, elle essaie de faire passer discrètement au passage la différence entre les yézidis, les kurdes et les musulmans, et alors ça aussi c'est un petit peu expliqué pour les nuls,
je rappelle que nous avons beaucoup d'amitié et d'admiration pour les combattantes kurdes,
bien sûr.
Je dis ça pour le courrier,
mais tu as raison, hein. Tu as raison,
c'est tout,
on les aime.
Sœur d'armes de Caroline Forest, des réactions sur ce film? Oui, bonsoir.
On peut quand même défendre ce film parce qu'il y a quand même de très beaux moments dans ce film. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça, je serais d'accord avec M. Murat. Il y a quand même des choses à défendre dans ce film. Voilà.
Vous n'êtes pas de la famille de Pierre Murat, non?
Non, pas du tout. Ni de Caroline Forest. Caroline Forest.
Je plaisantais. Merci en tout cas.
C'est le père Forest, lui, donc.
Salaud. Oh non.
On est passé à 1 minute 30 pour dire s'il faut ou pas. Moi, j'ai ma réponse, mais je vous laisse la dire. Allez voir Jamie Neiman avec Will Smith en 3D à 120 images secondes. Will Smith qui a donc deux visages, hein, merci les effets spéciaux, et deux âges. Xavier ?
Si on part du principe qu'un film qui utilise deux fois Will Smith, qui est l'acteur le plus inexpressif de la Terre, je crois qu'on a compris que c'était un échec total, quoi.
Sophie ?
C'est moyen, mais c'est un film de genre, et Ang Lee est quand même pas manchot, il s'est filmé.
Ah oui, j'ai même pas dit que c'était un film d'Ang Lee, j'aurais dû
oui,
le dire.
Oui, c'est quand même Ang Lee, et je trouve que sans être un philosophe sur les questions de clonage, et sans faire un précis de philosophie, il arrive à avoir des réponses de cinéaste. Moi, je trouve que le film se laisse voir.
Voilà, alors, l'ouverture dans le train, là, à grande vitesse, c'est pas mal, mais après... Beau. Bon, ça ralentit, hein. Eric.
Il y a peut-être 120 images par seconde, mais c'est d'une lenteur. Il se passe absolument rien à part le début. Et puis c'est.
Ça dure deux heures, hein.
Ça dure deux heures, non, c'est épouvantable. Et puis moi, quand j'ai vu que le méchant, dans son bureau, avait trois tableaux de Francis Bacon, je me suis dit, c'est pas possible dans un film comme ça.
Pierre,
c'est très mauvais. Non, c'est très mauvais. Puis alors, on a un petit peu de peine pour Ang Lee parce qu'il avait quand même fait Ice Storm, il avait fait le secret de Brokeback Mountain. On se demande ce qu'il fout là avec.
Il avait fait Hulk aussi. Hein.
Il avait fait Hulk aussi. Non, ça va de mal en pis.
Il avait des antécédents quand même.
C'est vrai. Mais là, c'est vraiment pas très.
Voilà, Jamie Neiman, et c'est donc de Monsieur Ang Lee. Allez, un conseil pour finir cette émission. On commence par Sophie.
Et je suis contente de pouvoir conseiller un autre film de femme, de guerrière, mais qui est un film formidable, qui est Pour Sama, et qui a tout à fait sa place dans cette programmation.
Qui est une fiction,
programmation,
ou un
documentaire. C'est un documentaire extraordinaire d'une jeune femme qui s'appelle Wadel Al-Kateb. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dès le début de la révolution syrienne, enfin des manifestations contre Bachar el-Assad, elle a commencé à filmer. Et ensuite, elle a tout le temps filmé. C'est-à-dire qu'elle est devenue une femme qui filmait le quotidien de la guerre en plein milieu du chaos d'Alep. Elle s'est mariée à Alep. Elle a eu un bébé à Alep qui s'appelle Sama. Elle est mariée au Toubib qui a ouvert un hôpital de fortune à Alep. Et on a toutes ces images-là qui sont extraordinairement précieuses comme témoignages. Et le film est formidable. Il est bouleversant. Cette petite Sama qui est née dans les décombres, elle est l'image d'un avenir possible pour tous ceux qui sont restés et qui sont sous les raids. C'est affreux et en même temps, ils rigolent. C'est un film formidable.
Je vais y aller pour Sama, c'est
pour
ça
Sama.
Pour Sama. Le conseil de Xavier.
Elle m'a piqué l'idée. Effectivement, c'est un des meilleurs films de l'année. C'est absolument bouleversant. C'est parfois très violent. Il faut endurer certaines images. Mais en même temps, il y a un souffle romanesque, dramaturgique à l'intérieur de ça. Alors que ce sont des petites scénettes qu'elle a, enfin, des petits moments.
Des images qu'elle a rapportées.
Qu'elle a mis sur Internet et qu'elle a monté comme ça globalement. Et il y a un souffle, mais que ne parvient jamais à atteindre le film de Caroline Forest, par exemple, pour en mettre une couche. Bon, donc, comme tu me l'as piqué, moi, je vais recommander.
Mais attendez, juste une question. J'espère qu'il est bien distribué. Parce
oui, il est très bien distribué. Elle a fait une tournée en France. Les gens sont bouleversés.
Très bien.
On peut le voir, il a eu une très grosse sortie.
Un mot.
La rétrospective Sébastien Lifshitz au Centre Pompidou, l'auteur de Bambi, l'auteur des Invisibles, grand cinéaste, grand documentariste. Voilà, il est installé à Beaubourg pour une quinzaine de jours avec ses films, des films qu'il a invités. C'est un très grand cinéaste.
Il va faire Adolescent.
Le conseil d'Éric.
Il ressort en DVD Quand passe la cigogne de Kalatozov, Palme d'Or de 58. Et j'ai très envie de revoir ce film que je n'ai pas vu depuis l'âge de 8 ans. Et j'ai en tête l'image de l'héroïne qui tournait autour d'un arbre. Et ça, je veux savoir ce qu'il y a autour de cette séquence. Et c'est le film préféré de Claude Lelouch, ce qui pour moi n'est pas un défaut.
On a presque trop de bons conseils ce soir, Pierre.
Un bouquin sur un grand cinéaste qui est Lee Chang-dong. Le jury, je vous rappelle qu'il y a 2 ans, si le jury cannois avait eu quelques lucidités et quelques cinéphilies, c'est Burning qui aurait obtenu la Palme d'Or. Et donc, il y a aux éditions d'Ivoire une étude et une interview absolument passionnante de Lee Chang-dong, dans laquelle on apprend tout sur son enfance, sur son bref passage comme ministère de la Culture en Corée du Sud. Pardon. Et c'est vraiment un livre passionnant. Donc, c'est Lee Chang-dong aux éditions d'Ivoire.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Sophie Avon, Xavier Le Herpeur, Eric Neuf et Pierre Murat pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir à la technique au théâtre de l'Alliance française, et je les remercie, il y avait Claire Levasseur, Stéphane Touvenin, ainsi que Victoria Asper. La réalisation était de Xavier Pestugia. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 24 octobre au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de livres. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.